Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, c'est l'émission quotidienne d'infos locales de Syllab, radio rennaise à écouter sur le 88.4 FM ou en DAB+. Du lundi au jeudi à 18h, d'octobre à juin, l'équipe de la rédaction de la radio sauvage décrypte l'actu de chaque jour, 6h avant minuit. Le lendemain, cet été, on vous propose de réécouter les chroniques de la saison radiophonique passée. Aujourd'hui, compile des chroniques fake news, réalisées tous les lundis par nos journalistes pour vous aider à décrypter les infox et à discerner le vrai du faux. Fake news première partie, c'est parti.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et tout de suite, on lance notre première chronique fake news. Sachez que tous les lundis, dans 6h avant minuit, on va vous décrypter une fake news et la tuer dans l'œuf. Hein. On commence avec Aglaé. Aujourd'hui, on décrypte notre première fake news, les accusations de trafic sexuel contre le rappeur P. Diddy, qui sont en ce moment instrumentalisées pendant la campagne présidentielle américaine. Aglaé.
Et oui, une fois n'est pas coutume, les élections présidentielles américaines sont l'occasion pour les partisans de Donald Trump d'attaquer ses opposants politiques. Kamala Harris, la candidate démocrate, est cette fois victime d'une vaste campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Elle est accusée d'avoir eu des liens avec le rappeur Puff Daddy, aussi connu sous le nom de P. Diddy, actuellement visé par des accusations de trafic sexuel. Tout commence le 17 septembre, soit le lendemain de l'arrestation du rappeur. Un compte Twitter pro-Trump publie alors une photo prise lors d'un événement caritatif datant d'il y a plus de 20 ans. On y voit notamment Kamala Harris enlaçant P. Diddy. En réalité, cette photo n'est qu'un grossier photomontage. L'homme aux côtés de Kamala Harris est en fait Montel Williams, son ancien compagnon, et son visage a simplement été remplacé par celui du rappeur. Malgré les démentis de Montel Williams, de nombreuses autres publications, notamment sur X, tentent d'impliquer Kamala Harris dans les affaires de Diddy. D'autres internautes affirment même « N'oubliez jamais comment Kamala Harris a débuté », elle n'est pas non plus étrangère aux soirées Diddy à Los Angeles. Les soirées dont il est ici question sont celles durant lesquelles le rappeur aurait organisé son trafic. Évidemment, le but de ces posts est de discréditer la démocrate et faire en sorte qu'elle ne soit pas élue. En attendant, les adeptes de Donald Trump se gardent bien de parler du fait que l'ex-président a véritablement eu des liens avec le rappeur. Il déclarait même en 2012 « c'est un bon gars et un ami à moi » en parlant de Diddy.
Ah, la campagne présidentielle américaine, encore une fois, qui est féconde en fake news. Je crois qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, hein, Aglaé.
Effectivement.
6h
avant minuit.
6h avant minuit.
Sur TikTok, les discours d'Adolf Hitler se sont transformés en trend, Cyriane. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh oui, en effet, Louise. C'est dans un rapport publié à la mi-septembre par l'ONG américaine Media Matters qui fait état d'une prolifération de vidéos de discours d'Adolf Hitler. Traduit en anglais et prononcé par une voix produite en intelligence artificielle, ils sont viraux sur TikTok. La viralité spécifique à l'application reposant sur le réemploi d'audio, les publications contenant les discours d'Hitler s'élèveraient à plus de 70 000. Les likes, quant à eux, toutes vidéos confondues, à plus de 21 millions, selon Sky News, un média britannique. L'un des audios les plus populaires est un extrait du discours de propagande prononcé en 1939 par le Führer devant le Reichstag. Texte dans lequel il appelle à l'extermination des Juifs, en partie. En fond, une musique populaire sur l'application chinoise. On y laisse entendre qu'en fait, Hitler, c'était un grand pacifiste qu'il aurait tout fait pour négocier avec les autres puissances, pour ne pas bombarder certaines régions ou encore pour protéger les populations. À l'image, un rectangle blanc avec l'inscription « Just listen », écoutez juste en français. En dessous, une photo en noir et blanc, laissant apparaître sur un fond gris la silhouette d'Hitler, de côté, uniforme et casquette nazie sur la tête. On ne peut pas voir son visage, permettant de ne pas se faire censurer par l'algorithme TikTok.
You know, I didn't do that for months. I didn't drop a bomb on Paris. I asked for surrender 5 times before we attacked Warsaw. Everything was refused. I asked that the women and children be sent out of the...
À ce type d'extrait audio s'ajoutent d'autres formats, comme celui des édits ou des photos à défiler, sur lesquelles sont inscrites des citations comme « Dieu sait que je voulais la paix » signé AH, les initiales d'Adolf Hitler. Régulièrement, des phrases du style « Peut-être qu'il n'était pas vraiment le vilain de l'histoire, en fait, c'était un héros » sont commentées par des internautes sous les posts. Mais comment ces vidéos, images et extraits audio arrivent-ils à sévir sur TikTok ? Eh bien, plusieurs stratagèmes sont mis en place pour esquiver la modération, à commencer par le nom d'Hitler. Il est remplacé par des surnoms comme « le grand peintre autrichien » ou encore des émojis à l'image de deux éclairs formant le symbole SS. Concernant l'audio, les mots comme « juif » ne sont jamais diffusés. Les discours de propagande utilisés portant surtout sur les stratégies guerrières du chancelier ou sur sa vision de la culture européenne qui serait en déclin. Permis par l'IA, ce n'est pas pour rien que ces contenus révisionnistes, ne donnant aucun contexte historique et tendant à minimiser la Shoah et les actes d'Adolf Hitler, pullulent sur la plateforme. Ils s'inscrivent dans la stratégie de l'extrême droite d'utiliser cette application et cette technologie pour diffuser leurs idées.
C'est d'autant plus inquiétant que 40% des visiteurs quotidiens de TikTok sont dans la tranche 15-24 ans, Cyriane.
Et oui, ce sont les plus visés par ces contenus, parce qu'il faut bien recruter des gens.
C'est toi qui as entre 15 et 24 ans et qui regarde TikTok, fais attention à ce que tu regardes sur TikTok. C'était la chronique Fake News et c'est tous les lundis.
6 heures avant minuit.
Ça souffle à fond ce soir là. Il y a des ouragans de partout qui portent avec eux beaucoup de fake news, Eva.
Eh oui. Tu as bien raison, Héloïse. Un couple des plus terrifiants, Hélène et Milton, respectivement un ouragan de catégorie 4 sur 5 et un ouragan de catégorie 3 sur 5, ont ravagé une grande partie des États-Unis ces derniers jours. Selon une étude publiée le 9 octobre 2024 par le World Weather Attribution, cette succession de catastrophes naturelles est la plus meurtrière depuis l'ouragan Katrina en 2005. Deux puissants ouragans dans la même région, au même moment, à quelques semaines de l'élection présidentielle états-unienne. Une coïncidence de dingue, non ? En tout cas, c'est suspect pour certaines personnes. Elon Musk, l'élu républicaine Marjorie Taylor Greene ou encore l'ancien président Donald Trump, voici certaines personnalités qui ont mis le feu aux poudres. Au milieu de la panique et des discours médiatiques, Donald Trump a relayé sur X une fausse affirmation sur les dépenses de sa concurrente à la présidentielle américaine, selon France 24. Kamala Harris aurait soi-disant utilisé des fonds voués aux besoins de sauvetage et maintien en vie issus de l'organisme gouvernemental FEMA. Ces fonds vont normalement à destination des victimes des ouragans. Mais, selon cette rumeur, elle aurait donné des millions de ses fonds aux migrants vivant illégalement aux États-Unis. Cette rumeur fut discréditée par le site du FEMA lui-même quelques heures après. Mais dans ce climat propice aux théories du complot, c'est le climat lui-même qui est remis en question. Oui, le gouvernement peut contrôler la météo. Tweet Marjorie Taylor Greene. Cette publication est accompagnée d'une vague d'internautes faisant ressurgir les théories du complot sur la manipulation du climat et plus particulièrement sur HAARP. HAARP ou High Frequency Active Auroral Research Program.
Quel accent.
est un observatoire de recherche américain étudiant la haute atmosphère à l'aide d'antennes. Nombreux complotistes sont persuadés. Il s'agit d'une arme secrète pour contrôler le climat. Avec un soutien venant des républicains, les complotistes s'en prennent directement aux météorologues et deviennent parfois même violents, témoigne à Rolling Stones James Spann, un météorologue d'Alabama. Ils perdent toutefois en l'humanité, ajoute un deuxième météorologue, Matthew Cappucci. Pourtant, le professeur de l'université de Stanford, Umran Inan, l'a dit. Les théories concernant le contrôle du climat ne reposent pas sur des faits car aucun phénomène, aussi énergétique soit-il, ne peut modifier le système climatique terrestre.
Merci Eva pour ce débunkage.
6
heures avant minuit.
6 heures avant minuit.
La chronique fake news du lundi cette semaine avec Aglaé. On entend de plus en plus parler de l'AME, Aglaé, l'aide médicale d'État. Alors, on aurait pu en apprendre plus concernant la nécessité de ce dispositif, mais non, ce qui est mis en avant, ce sont les dépenses, l'argent, encore et toujours, et l'injustice présumée d'un tel dispositif, Aglaé.
Et oui, dans un grand débat qui s'est déroulé mi-octobre avec David Guiraud, député Nouveau Front Populaire, Anne-Laure Blin, députée Les Républicains, a répliqué sans cesse « Et pour ceux qui profitent ?» la fameuse question. Elle parle aussi, je cite, de dépenses esthétiques, de stérilisation et de transsexualisme, donc elle n'a pas l'air très renseignée sur la question. Donc vous avez bien compris, les personnes exilées, je cite, profiteraient des aides de l'État. Pourquoi ? Afin d'avoir accès à certaines opérations. Jordan Bardella s'est lui aussi exprimé à ce sujet ce matin sur le plateau de CNews. Je le cite, à la fin des années 90, c'est devenu un totem pour la gauche qui considère que si vous êtes en situation irrégulière en France, on doit vous offrir la gratuité des soins jusqu'à l'opération qui vise à se faire recoller les oreilles et tout aux frais de la princesse, comprenez l'État. Il met lui aussi l'accent sur certaines opérations considérées comme esthétiques.
Mais est-ce qu'on peut revenir à la base, Aglaé ? C'est quoi également exactement l'aide médicale d'État, l'AME ?
Alors l'AME, c'est donc l'aide médicale d'État, tu l'as dit, et c'est-à-dire un dispositif mis en place en 2000 permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.
Et pourquoi l'AME est si instrumentalisée ? Pourquoi cette instrumentalisation ?
Tout simplement parce qu'il faut faire des économies. Et oui, le budget 2025 est sur toutes les lèvres et combler l'endettement français dans tous les esprits à l'Assemblée. La dette publique, estimée à 3,228 milliards d'euros d'après l'INSEE, a de quoi faire perdre la tête. Certains vont même jusqu'à remettre en question l'AME. Et le 15 octobre, le gouvernement, après avoir proposé une augmentation, a finalement décidé de geler les crédits consacrés à ce dispositif. Les réflexions de la droite et de l'extrême droite ont visiblement fait pencher la balance. En fait, tous ces discours peuvent donner l'impression que l'AME représente un budget considérable. C'est une technique basique de l'extrême droite, faire peur aux gens, leur faire croire que les personnes exilées volent leur argent. Mais cette aide ne représente en réalité qu'1,2 milliard d'euros. Alors comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait une goutte d'eau. Seulement 0,5% des dépenses de santé en 2024. Concernant ce qui est pris en charge par l'AME, selon France Info, le dernier rapport en date sur le sujet est assez flou et ne dit pas précisément quels actes médicaux ont été réalisés. Mais on sait que le premier domaine médical à bénéficier de l'AME à l'hôpital concerne les séances de dialyse ou de chimiothérapie. Donc vraiment pas du tout question d'opération esthétique. Le second poste de dépense, c'est l'obstétrique. Et le troisième poste de dépense est le digestif, dont la chirurgie digestive, comme par exemple la pose d'un anneau gastrique qui revient souvent dans les exemples et qui ne représente que 0,2% du budget, donc autant dire que c'est minime. SOS Racisme, dans un communiqué commun avec d'autres organisations, alertait début octobre, la santé des personnes exilées est à nouveau instrumentalisée pour venir alimenter des considérations de politique migratoire. Cet appel n'a visiblement pas encore été entendu par les politiques.
Merci Aglaé pour tous ces éclaircissements.
6 heures avant minuit.
Mardi 29 octobre, Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, annonce au micro de RTL vouloir aligner le nombre de jours de carence du public sur celui du privé. Il passerait alors de 1 à 3 jours. Le ministre évoque aussi l'arrêt de l'indemnisation complète des congés maladie, passant alors à 90%. Mais ces 3 jours de carence, ils ont vraiment lieu dans le privé. Cyriane nous propose un décryptage.
Alors en fait, pas tout à fait. La loi prévoit effectivement 3 jours de carence pour les salariés du privé. Toutefois, dans les faits, pour de nombreux salariés, ce délai est réduit, voire même inexistant. Parce qu'à la différence de la fonction publique, des accords d'entreprise ou des conventions collectives prévoit de réduire le nombre de jours sans indemnisation et parfois sous condition d'ancienneté. Là où, dans le public, bah, tout le monde est logé à la même enseigne. Un jour d'absence égale un jour de carence non indemnisé.
Et pourquoi cette mesure, Cyrienne ?
Parce que de 1, c'est la crise, Héloïse, en fait, rappelle-toi. Faut suivre. Les caisses de l'État sont vides, donc on pioche dans celles des fonctionnaires. Et puis de 2, parce que selon le ministre, il y a...
une augmentation significative de la moyenne de jours d'absence par agent, qui est passée à 14,5, alors qu'il y a quelques années, on était à 8. C'était à peu près la même chose privé-public il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une vraie divergence, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui s'est creusé entre le public et le privé.
Et comment on l'explique, cette augmentation ?
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un petit truc qui a un peu changé nos vies ces dernières années. Attention, suspense, de quoi je parle ?
Petite
c'est très dur à trouver. Hein. Attention,
à
attention. Et oui, bravo, je parle bien du Covid.
Je le savais.
T'étais à ça, à ça. En fait, bah, M. Kasbarian prend comme chiffre de référence ceux d'études réalisées entre 2014 et 2019. Période où salariés du privé et agents publics dans leur ensemble présentaient un absentéisme quasi identique et assez stable sur la période, avec en moyenne près de 8 jours d'absence par an et par personne. Puis, avec l'épidémie, ce nombre a augmenté pour passer en 2022 à 14,5 jours dans le public contre 11,6 dans le privé. La hausse depuis 2014 a donc été plus importante dans le public, plus 75%, que dans le privé, plus 40%. Sauf que quand on compare tous les fonctionnaires avec tous les salariés du privé, on efface les différences et les pourquoi du comment les gens sont plus ou moins absents ou absentes. Je vous propose donc de refaire un peu le tri dans tout ça. Déjà, on divise en 3 catégories les fonctions publiques, étatiques, hospitalières et territoriales. Et puis là, on s'aperçoit qu'en 2022, même après une hausse importante suite à l'épidémie, les fonctionnaires de l'État, hors enseignants et enseignantes, affiche toujours, avec 10,2 jours, un nombre d'arrêts par agent inférieur au secteur privé. Les enseignants et enseignantes, eux et elles, présentent un nombre moyen d'absence identique à celui des salariés du privé. Les deux autres fonctions publiques, territoriales et hospitalières, ont quant à elles toujours eu un absentéisme supérieur au privé. Et oui, parce que quand on soigne des malades, bah, on devient parfois malade à son tour. Je sais, c'est choquant. Mais ces différences, elles ont d'abord une explication socio-démographique en réalité.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Alors déjà, premièrement, dans la fonction publique, la moyenne d'âge est plus élevée. Donc plus on est vieux, plus notre corps est fatigué, plus on a besoin de faire des arrêts maladie. Logique. Et puis il y a une majorité de femmes dans la fonction publique. Rien qu'à elles, elles représentent 63% des effectifs. Et les femmes, elles peuvent être mères d'une famille monoparentale, avoir des menstruations douloureuses ou encore tomber enceinte. On rappelle aussi que les hommes ont moins tendance à prendre d'arrêts maladie.
Et on note que les absences pour des raisons de santé dans la fonction publique entameraient une baisse par ailleurs, sans toutefois retrouver leur niveau d'avant crise Covid. La hausse constatée lors de l'épidémie s'est réduite d'environ 30% en 2023 dans la fonction publique étatique, par exemple. En attendant la loi, elle est toujours en discussion dans le cadre du projet de loi de finances du gouvernement. Merci Cyrienne pour tous ces chiffres et toutes ces explications, c'était vraiment qualitatif.
Ah merci. Ça fait beaucoup de chiffres. Désolée aux dyscalculiques qui nous écoutent.
J'espère qu'ils nous pardonneront.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
Le lundi, c'est chronique fake news. Ce soir, c'est Aglaé qui nous lit sa chronique. C'est une véritable guerre entre qui rachètera le plus de médias en ce moment, Aglaé.
C'est ça. InfoWars, en français, guerre d'information, est un site internet américain. Depuis 25 ans, il propage de fausses informations et des théories de complot, ce qui l'a mené à sa chute. Le 14 novembre, on a appris son rachat par The Onion, un média d'information satirique américain. Pour ce faire, il s'est associé à des familles de victimes d'une fusillade datant d'il y a 12 ans. Revenons aux sources de cette affaire. Tout remonte en 2012. Le 14 décembre, Adam Lanza, 20 ans, entre dans l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut, aux États-Unis. Il y tue 26 personnes, dont 20 enfants, avant de se suicider. Ce massacre avait bouleversé le monde entier par sa violence. Et c'est là qu'intervient Alex Jones, le créateur de InfoWars, figure de l'extrême droite et du conspirationnisme américain. Pendant des années après cet événement, le site internet a affirmé que la fusillade n'avait jamais eu lieu et que tout était orchestré par le gouvernement dans le but de mieux contrôler les armes. Pire encore, InfoWars déclarait que les familles des victimes étaient des acteurs, ce qui a conduit à un harcèlement massif des familles, allant même jusqu'aux menaces de mort. En 2018, cette famille concernée porte plainte pour diffamation contre Alex Jones et son site. Il est alors condamné à verser près $1 milliard. 4 ans après, il leur doit presque $500 millions supplémentaires en dommages et intérêts. Il avait déclaré n'avoir que quelques centaines de milliers de dollars sur son compte en banque. InfoWars avait donc été placé en liquidation judiciaire et vendu. Sa vente a pu avoir lieu grâce à la participation financière des familles, renonçant à une partie de l'argent qui leur revenait. Une belle revanche pour elle, car le site devrait devenir, selon les plans de Ben Collins, le propriétaire de The Onion, le site le plus stupide d'Internet. À partir de janvier 2025, InfoWars deviendra une parodie de lui-même en se moquant des désinformateurs. Mais Alex Jones et d'autres membres du site, s'enfonçant dans les mensonges, ont affirmé que la vente avait été annulée. Ben Collins a immédiatement réagi sur X en disant que c'était faux. En parallèle, un juge texan a estimé que le processus de vente d'InfoWars n'était pas très transparent. Il a demandé une nouvelle audience pour évoquer les potentiels problèmes. Cela pourrait mettre des bâtons dans les roues de The Onion. Il y a autre chose qui pourrait bloquer quelque peu l'avancée du média. Les 630 000 followers de InfoWars et les 3,2 milliards de fervents défenseurs d'Alex Jones sur X. Beaucoup le soutiennent et pire encore, le croient. Cette affaire illustre l'attirance de certains citoyens et citoyennes pour le complotisme, mais aussi une vive défiance envers les journaux dits « traditionnels ». Celle-ci, tout comme la présence de l'extrême droite dans les médias, n'est d'ailleurs pas qu'une spécialité américaine. On trouve ça aussi bien en France. Pour prendre un exemple récent, la semaine dernière, l'école supérieure de journalisme de Paris a été achetée par un groupe d'investisseurs conservateurs dont Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Bolloré, connu pour exercer son influence conservatrice sur les journalistes de ces médias.
Merci Aglaé pour toutes ces informations.
6 heures avant minuit.
Le RN exige-t-il vraiment un casier judiciaire vierge pour être candidat ou candidate, comme l'affirme Jordan Bardella, en pleine affaire des assistants parlementaires au Parlement européen et en pleine promotion de son livre autobiographique? Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était interrogé lundi dernier sur BFM TV. Cyriane explique pourquoi cette déclaration est à nuancer. C'est la chronique Fake News.
En effet, Héloïse, lundi dernier, défile face au chef du parti d'extrême droite plusieurs éditorialistes. Vient le tour de Neyla Latrousse, chef du service politique de la chaîne d'info en continu. Le sujet de la discussion est inscrit sur le bandeau en bas de l'écran. Brebis galeuse, le RN a-t-il fait le ménage? La journaliste revient sur les législatives anticipées de cette année et les controverses concernant une quinzaine de candidatures. Elle rappelle notamment celle d'Annie Bell, condamnée pour séquestration avec arme et candidate du Rassemblement national aux élections législatives dans la 3e circonscription de la Mayenne. Elle lui pose la question suivante. Est-ce qu'il faudra un casier vierge désormais pour être candidat du Rassemblement national? Ce à quoi Jordan Bardella affirme en réponse.
Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro une lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République.
Une règle d'or donc à peine énoncée que déjà transgressée, et ce depuis bien longtemps. Le journal en ligne Mediapart a recensé au moins une dizaine de cas parlementaires ou de personnalités investies RN condamnées par la loi. A commencer par Marine Le Pen, condamnée 2 fois en appel pour diffamation en 2011 et 2024. Et pourtant, triple candidate à l'élection présidentielle et quadruple candidate aux élections législatives après sa première condamnation. Ses propos sanctionnés par la justice ont été prononcés respectivement en 2011 et 2024 à l'encontre d'un ancien cadre du FN, puis d'une association d'aide aux migrants, la CIMAD. Ici en Bretagne, le conseiller régional Florent de Kersauzon fait lui aussi partie de ces transgresseurs de la règle numéro 1 de Jordan Bardella, condamné en février 2024 par la cour d'appel de Rennes pour abus de pouvoir et abus de biens sociaux. Frédéric Boccatelli, lui, en 2000, lorsque secrétaire adjoint du mouvement national républicain au moment des faits, a été emprisonné 4 fois et demi. 4 fois et demi. 4 mois.
C'est déjà bien.
Ça fait un peu beaucoup. 4 mois et demi à la prison de Toulon. Le motif, violence en réunion avec armes. Dès l'année suivante, son incarcération, il a été investi candidat FN au municipal de Sifour-les-Plages.
Mais en fait, Cyriane, le parti ne vérifie pas les casiers judiciaires de ses adhérents et adhérentes, c'est ça?
Mais si, hein. En fait, il y a une commission nationale d'investiture, c'est ce qu'on appelle une CNI. Son but, attribuer les investitures ou les soutiens en période électorale du Rassemblement national. Et donc éviter les erreurs de casting, comme le dit Jordan Bardella au micro de BFM. Des erreurs comme les dizaines de profils ayant fait parler d'eux lors des législatives. Rappelez-vous, par exemple, de cette candidate ayant sur son Facebook une photo d'elle arborant une casquette nazie. Elle avait été expulsée du parti après l'emballement médiatique provoqué par cette révélation. Et dans cette commission sont présentes des personnes elles-mêmes condamnées par la loi. Oui, je sais, c'est un peu ironique. En l'occurrence, on parle ici de Marine Le Pen, donc Louis Alliot et Walrand de Saint-Just.
Valérand
de Saint-Just.
Marine Le Pen, sur qui plane une peine d'inéligibilité de 5 ans requise par le parquet. Jordan Bardella, dans la même interview interrogée sur le sujet, a plus ou moins esquivé la potentialité d'une condamnation et donc l'expulsion du parti de la fille de son fondateur, Jean-Marie Le Pen, plaidant son innocence, quoi qu'il en coûte. Merci Suriane pour cette chronique.
6 heures avant minuit.
Comme tous les lundis, c'est la chronique Fake News. Plusieurs polémiques et fake news sont apparues par rapport à un programme national qui n'a pourtant pas encore été présenté, celui sur l'éducation à la sexualité, Eva.
La présentation de ce programme est en effet prévue mi-décembre au Conseil supérieur de l'éducation, mais plusieurs figures politiques sont déjà à ses trousses. La première est la présidente du syndicat de la famille, anciennement connue sous le nom de la Manif pour tous. Dimanche 24 novembre, sur le plateau de CNews, elle a déclaré que le nouveau programme national d'éducation à la sexualité, je cite, est un lavage de cerveau idéologique dès l'âge de 3 ans et que les adultes viennent parler de sexe à des enfants sans leur consentement. Cela pose problème.
Mais alors, est-ce que c'est le cas ? Real or fake ?
Alors, en temps normal, je n'aurais pas la réponse car ce programme n'est pas encore partagé au grand public, mais il a été partagé à France Info la semaine dernière. Donc voilà ce qu'il en est de ce programme. Si on commence avec les plus petits, de 3 à 6 ans, le programme stipule que les enfants seront amenés à, par exemple, nommer les différentes parties du corps, mais également à identifier leurs émotions et leurs goûts sans prendre part aux stéréotypes de genre. Puis, à partir du CP et jusqu'en 6e, l'accent est mis sur les relations humaines, sur les différents modèles familiaux, sur le respect et l'estime de soi. Ils aident les enfants de primaire à savoir comment dire non et à identifier une situation de violence ou de harcèlement. Quant à la notion de consentement, le programme suggère que cette notion soit introduite en classe de CM2. Avant le collège, le programme se concentre sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et les termes comme sexe ou sexualité ne sont pas mentionnés. Ces derniers sont évoqués au collège et au lycée avec des cours à proprement parler dédiés aux relations sexuelles à partir de la classe de 4e. Au collège et au lycée, le programme approfondit le sujet de respect de leurs droits et de celles des autres, mais aussi de leur image, de leur corps, et cherche à sensibiliser à l'intimité face aux réseaux sociaux. Donc, selon France Info, pas de mention de sexe aux enfants, non. Et la théorie du genre n'est pas non plus mentionnée dans le programme.
La théorie du genre, Eva.
Une autre polémique est apparue mercredi dernier concernant toujours le même, le fameux programme d'éducation à la sexualité. Cette fois, c'est Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire lui-même, qui a déclaré au Sénat que le programme est, en l'état, n'est pas acceptable, ramenant sur la table le sujet de la théorie du genre. Un concept flou, régulièrement brandi par des personnalités d'extrême droite comme Éric Zemmour récemment. Des conservateurs pour qui les gender studies, un véritable champ de recherche universitaire cherchant à expliquer les phénomènes sociaux genrés, tenteraient en réalité de lobotomiser les enfants en leur faisant oublier qu'ils sont filles ou garçons par exemple. Il s'agit donc ici d'une panique morale craignant un pseudo-risque civilisationnel. James Le Perlier, du mouvement inter-LGBT, s'est indigné de la polémique et a déclaré « L'idée est de faire croire qu'en parlant d'identité de genre, d'égalité fille-garçon, de sexisme ou encore de discrimination homophobe ou transphobe à l'école, on essaierait de pousser un agenda pour transformer les enfants en de parfaits petits LGBT. C'est n'importe quoi. » Au lendemain de la déclaration du ministre LR, sa ministre de tutelle de l'éducation nationale, Anne
Genetet,
issue du parti Ensemble, a publié sur son compte X que la théorie du genre n'existe pas, mais l'identité de genre est une notion abordée au cours de la scolarité car c'est un programme qui doit permettre le vivre ensemble, de lutter contre le harcèlement et d'aborder avec les élèves des enjeux d'égalité. Elle réaffirme également ses propos à l'oral lors d'un déplacement le jeudi 28 novembre que la théorie du genre n'existe pas dans le programme. À la base, initié par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, en 2023, ce programme traîne depuis un an et demi sur la table du gouvernement. Selon la députée socialiste et membre du Conseil supérieur des programmes, Fatia Keloua Hachi, une modification dans un programme scolaire prend environ 6 mois. Elle ajoute qu'une fois le CSE consulté, le ministère peut publier un décret avec les nouveaux programmes qui entrent alors immédiatement en application. On devrait savoir si ce programme va être appliqué d'ici la mi-décembre.
Merci Eva, et on rappelle que la disparition de l'éducation sexuelle dans plein de classes fait en sorte que les jeunes se protègent de moins en moins, mettent moins en moins de capotes.
C'est vrai.
Donc voilà, vive l'éducation sexuelle.
Wouh !
6 heures avant minuit.
Le lundi, c'est la chronique Fake News et aujourd'hui, c'est Cyriane qui nous décrypte un nouveau fait. De quoi tu vas nous parler cette semaine, Cyriane ?
Alors, vous avez peut-être vu cet extrait passer sur vos réseaux sociaux. Clarissa Ward, reportrice de guerre en Syrie, apprenant aux derniers détenus d'une prison secrète la chute du régime de Bachar al-Assad. La journaliste parle d'une des choses les plus extraordinaires dont elle a été témoin au cours de sa carrière. Je vous raconte donc la vidéo publiée le 12 décembre dernier sur les réseaux sociaux de CNN, la chaîne d'infos en continu américaine et ayant déjà cumulé une dizaine de millions de vues. Accompagnée par des soldats rebelles syriens, on voit d'abord la journaliste errer dans cette prison cachée située dans un bâtiment de l'armée de l'air syrienne à Damas. Elle marche, s'arrête pour éclairer avec le flash de son iPhone les nombreuses inscriptions déposées sur les murs par les détenus fraîchement libérés. En fond, la voix de Clarisse Ward explique qu'elle et son équipe sont à la recherche de traces d'Austin Tice, correspondant de guerre américain kidnappé en 2012 lors d'un raid de l'armée syrienne alors qu'il effectue un reportage à Daraya. Le groupe de CNN ne trouvera rien à ce sujet. Toutes les cellules donc sont ouvertes, sauf une. Un rebelle demande donc aux équipes d'éteindre leurs caméras pour pouvoir tirer sur la serrure. Après un aval du soldat, la journaliste pénètre dans la sombre pièce. Un grand carré vide de béton, sans fenêtre, éclairé d'une faible lumière. À droite de la porte, en rentrant, Ward constate une couverture recouvrant une masse. Elle est persuadée de l'avoir vue bouger. Le reste de l'équipe arrive. Le soldat rebelle soulève délicatement une petite partie du duvet et s'éloigne. Un homme surgit d'en dessous du bout de couette. Les mains en l'air répétant « Je suis un civil ». Le détenu explique qu'il vient de la ville de Homs, qu'il se nomme Adel Garbal et que c'est la troisième prison dans laquelle il est transféré. La journaliste et le soldat lui donnent de l'eau puis l'emmènent à la lumière du jour pour la première fois depuis 3 mois d'après ses dires, avant de l'asseoir pour lui annoncer que le régime de Bachar al-Assad est enfin tombé. Mais voilà, vous le savez aujourd'hui, avec Internet, il est bien compliqué de mentir sur son identité. La vidéo a d'abord donc interrogé par son côté extraordinaire. On croit facilement à une mise en scène. Ce qui a interpellé les internautes, c'est aussi l'état de l'homme. Il apparaît dans des vêtements en plutôt bon état, la barbe bien taillée, les ongles propres. Ce à quoi s'ajoutent ses réactions physiques. Il ne boit presque pas d'eau alors qu'il vient de passer 3 jours sans et ne cligne même pas des yeux lorsqu'il fixe le ciel une fois sorti de son obscure cellule. Bref, c'est chelou, c'est bien. Hier, le média syrien Verify.si, membre du réseau international de fact-checking IFCN, a publié un article revenant sur l'identité d'Adil Garbal. En réalité, il s'agirait de Salama Mohamed Salama, connu sous le nom d'Abu Hamza. Le journal, après avoir recueilli des témoignages d'habitants du quartier d'Al-Bayada à Homs, explique. Il est un premier lieutenant des services de renseignement de l'armée de l'air syrienne, connu pour ses activités à Homs. Les habitants du quartier d'Al-Bayada l'ont identifié comme étant fréquemment positionné à un poste de contrôle à l'entrée ouest de la zone, tristement célèbre pour ses abus. En fait, Salama Mohamed Salama serait donc un officier ripou escroquant les Syriens. Mais pas que. Il aurait participé à des opérations militaires sur plusieurs fronts à Homs en 2014, a tué des civils et a été responsable de la détention et de la torture de nombreux jeunes hommes dans la ville, sans motif ou sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces. Nombre d'entre eux ont été pris pour cible, simplement parce qu'ils refusaient de payer des pots de vin ou de coopérer, ou même pour des raisons arbitraires telles que leur apparence. Détaillent dans leur article les vérificateurs syriens.
Il aurait été donc jeté en prison depuis moins d'un mois, en vérité à cause d'un différend sur le partage des bénéfices provenant de fonds extorqués avec un officier de rang supérieur. Les habitants et habitantes de son quartier, interrogés par VerifyC, ont détaillé aux médias que l'homme, depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, tente donc de faire croire qu'il a été forcé d'agir ainsi. En fait, dans cette histoire, qui est à l'origine de la fake news ? Est-ce que c'est Clarissa Ward ? Est-ce que Clarissa Ward a tout bonnement été dupée par l'homme ou par des rebelles syriens ? CNN ont-ils mis tout ça en scène ? Ou la chaîne n'a-t-elle juste pas assez fait attention aux informations qu'elle diffusait, précipitée par l'enchaînement des faits ou par son envie de créer le buzz autour de son gros titre « CNN freed a man held captive in a secret Syrian jail ». CNN libère un homme captif dans une prison secrète syrienne. Pour le moment, Clarissa Ward ne s'est pas exprimée plus amplement sur l'affaire et a juste retweeté un post du Croissant Rouge syrien montrant l'ex-détenu avec des humanitaires et un proche marchant main dans la main dans les rues de Damas. CNN nie toute mise en scène du reportage, affirmant que l'équipe sur place n'a filmé que ce qu'on lui montrait. Enfin, tout dernier élément suspect, le 12 décembre, le média syrien Zaman Al-Wessel a publié sur X une vidéo de la même prison. Des images filmées la veille, le même jour donc, que le passage de la reportrice de guerre et montrant donc la cellule avec la couverture au sol. Contacté par Libération, Zaman Al-Wessel n'a pas pu dire au journal français si leur correspondant était arrivé avant ou après CNN.
Merci Cyriane pour ce décryptage de qualité.
6 heures avant minuit.
C'est fini.
C'est lundi, et ben non, c'est pas fini, il y a une petite chronique encore. Le lundi, on fait la chronique fake news, en fait. On décrypte une fake news tous les lundis. Et puis aujourd'hui, bah, c'est Eva qui va nous parler, qui va nous décrypter une fake news. 3 semaines se sont écoulées depuis le passage de Chido. Je sais pas si vous vous souvenez, le cyclone le plus violent et destructeur observé à Mayotte depuis pratiquement un siècle. De cette situation catastrophique, plusieurs informations ont circulé dans les médias, mais ne s'avèrent pas tout à fait vraies, Eva.
En effet, après le cyclone Chido qui a ravagé Mayotte, soit passé décembre dernier, la vie sur l'île n'a pas repris son cours face aux dégâts humains et matériels. Des centaines de morts, des milliers d'habitations et de routes détruites, et des ressources essentielles non disponibles, telles que l'eau ou l'électricité. Et ces deux dernières ont été la source de fake news. La première concerne la ressource en eau, et la voici tout droit sortie de la bouche du député RN du Loiret, Thomas Ménager, à France Info vendredi dernier. Je cite « L'année dernière, au moment du projet de loi de finances, on a déposé un amendement de 100 millions d'euros pour l'accès à l'eau en Outre-mer, et notamment à Mayotte, et tous les groupes politiques ont voté contre. » Mais voilà, ce n'est pas totalement vrai. Il est vrai que son parti a bel et bien déposé un amendement pour faciliter l'accès à l'eau en Outre-mer, et ça 2 fois. Une fois en 2023 pour le budget de 2024 et une deuxième fois en 2024 pour le budget de 2025. Plus exactement, c'est le député RN du Gard, Johan Gillet, qui a déposé ces 2 amendements les 2 années consécutives. Il a également demandé la création d'un plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer d'une valeur de 50 millions d'euros. Donc vous voyez un peu le problème. Et oui, l'amendement déposé par le RN ne parlait pas de 100 millions d'euros, comme l'a dit le député Thomas Ménager, mais bien de 50 millions d'euros. Il n'est d'ailleurs pas le seul parti à avoir proposé un tel amendement. Le Parti Socialiste, tout d'abord, a lui proposé un plan d'urgence de 100 millions d'euros et la France Insoumise de 500 millions d'euros. Les comptes rendus consultables dans les archives du site de l'Assemblée nationale témoignent de ces propositions d'amendements spécifiques. Cependant, le détail des votes des groupes politiques n'y est pas mentionné. On ne peut donc pas vérifier si, comme le prétend le député RN, tous les groupes politiques ont voté contre l'amendement du RN. La deuxième fausse information concerne l'électricité à Mayotte et a été démentie hier soir par la députée de Lille, Estelle Youssoufa. En effet, hier, dans l'après-midi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que 69,7% de la population générale mahoraise avait de nouveau accès à l'électricité depuis sa coupure causée par le cyclone qu'il y a eu 3 semaines. Cependant, la députée de Mayotte a déclaré à France Info que cette affirmation était fausse. Selon elle, ce qui est vrai, c'est que les lignes de haute tension et de moyenne tension ont été remises, mais avoir de l'électricité dans son foyer, c'est dans la granularité, et là, c'est beaucoup plus loin. Estelle Youssoufa ajoute qu'elle soupçonne le gouvernement d'avoir donné cette information pour montrer que ça avance, comme promis par le Premier ministre François Bayrou lors de sa visite sur l'île. Elle affirme que la situation à Mayotte est au centre du jeu politique, avec la présence de Marine Le Pen actuellement sur place, et déplore d'ailleurs l'absence des élus de la gauche sur l'île. Pour rappel, l'objectif officiel du ministère de l'Intérieur est de rétablir l'électricité dans tous les foyers d'ici la fin du mois.
Merci Eva, heureusement que tu es là pour nous aider à y voir plus clair dans tout ça.
De rien.
Si, la, la. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.